Spectacle d'enduro et patrimoine rural au programme avec l'écomusée de Sisteron ce samedi 24 août. Joëlle Blanchard, présidente de l'écomusée et présidente de l'association Les Amis du Terroir, et Bernard Blanc, trésorier de l'association, au micro de Chris Alessandri.
Joëlle Blanchard, je suis donc la présidente actuellement de l'écomusée de Sisteron, à la tête d'une super équipe qui font tourner le musée à fond. Alors l'association, il s'agit des Amis du Terroir Sisteronais qui gèrent l'écomusée de Sisteron, qui est situé à la sortie nord de la ville, après le premier rond-point. Ce musée a pour vocation de faire revivre les us et coutumes d'antan. Et nous avons régulièrement des animations sur le parking du musée, où nous recevons du public et nous sommes beaucoup aidés aussi par les techniques. Nous avons un barnum pour pouvoir accueillir et manger à l'abri du soleil et de la pluie.
Alors moi je suis Bernard Blanc, je suis le trésorier de l'association Les Amis du Terroir.
Joël et Bernard, cette association elle remonte déjà un certain temps et que d'activités ici même sur le terrain?
Alors l'association date de 2002. Elle a été créée par Sylvie Pouzadou, qui est malheureusement décédée, et Claude Brémond et Liliane Manière avaient pris le relais. Et nous essayons de faire durer tout ce qui a été apporté, de l'améliorer au mieux pour la ville de Sisteron.
Joël et Bernard, pourquoi cette volonté de faire traverser le temps en quelque sorte et de porter le flambeau et faire que les choses continuent à vivre?
Bon, est-ce que c'est la nostalgie du passé? Peut-être. Mais toujours est-il que je suis rentré au Quadri Sisteronais en 1969 et j'en suis parti en 2010. Donc je suis resté plus de 40 ans fidèle au groupe et je travaillais aussi à l'écomusée au début des années 2000. Mais je suis passionné par l'histoire en général, mais plus particulièrement par l'histoire locale, l'histoire des objets que j'ai vus utilisés par mes parents, mes grands-parents. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis toujours là et j'espère pour encore quelques années.
Et il faut dire que vous arrivez à avoir vraiment des exclusivités, des pièces qui traversent le temps elles aussi, que vous arrivez à refaire vivre en quelque sorte ici dans le musée.
Alors nous avons effectivement des pièces un peu exceptionnelles chaque année. Il faut dire que la population et l'entourage y participent beaucoup et on tient à les remercier. On a souvent des dons, des prêts qui nous permettent de nous épanouir. L'année prochaine, il y a par exemple les 100 ans du Quadri Sisteronais et on fait déjà appel aux Sisteronais pour pouvoir alimenter cette très belle exposition.
On essaie d'organiser des animations de manière à attirer le public parce que le musée n'est pas idéalement placé à la sortie de la ville et donc on essaie par ces animations d'attirer du monde. Et ça marche puisque avant on ne faisait pas d'animation, on faisait uniquement la mise en place des expositions temporaires et ensuite après l'inauguration, on venait régulièrement au musée pour voir si tout se passait bien mais on ne faisait rien qui attirait véritablement les visiteurs. Et depuis que l'on fait ces animations, on en fait à peu près les 3 semaines, à peu près en gros, hein, pendant les 3 mois d'ouverture du musée. Et du coup, le nombre de visiteurs n'a pas doublé, mais il a augmenté d'un gros tiers.
On sait que c'est énorme en même temps le travail, la somme de travail qu'il y a derrière tout ça pour organiser une exposition. Comment vous vous y prenez? Quelle est la logistique que vous mettez en place? Parce que tous les 3 mois, ça veut dire qu'on ne peut pas lever le pied.
Tous les 3 mois, effectivement, si, on lève le pied parce qu'on a une super équipe, une fois de plus, on est une douzaine. Ils ont plein d'idées, ils ont des doigts en or. Et on essaie chaque fois d'aller sur un nouveau sujet. Donc les animations ne changent rien à l'exposition du musée. Par contre, nous accueillons des rassemblements de véhicules anciens, des rassemblements d'objets, d'outils agricoles auxquels nous convions la population.
Par exemple, sur les différentes expositions, là actuellement, avec l'écomusée et les Amis du Terroir, nous sommes sur quel thème?
Dans le musée, il y a 2 expositions temporaires. L'une sur le pont de la Baume, qui a été en grande partie ou pratiquement en totalité organisée par les archives départementales. Bon, évidemment, nous avons aussi collaboré. La deuxième exposition temporaire, c'est l'atelier de menuiserie du début du XXe siècle, vers 1900. Un atelier qui a fonctionné réellement à Châteauvieux et qui nous a été cédé, gracieusement, offert avec beaucoup de cœur par la famille Faucon, Jean-Claude Faucon. faucon. Et cet atelier, on l'a vu tourner lorsque nous sommes allés le récupérer dans la pièce où les machines étaient installées. On l'a vu tourner et donc on l'a restauré un petit peu, les quelques belles pièces qu'on nous a données. Tout pourrait fonctionner si on avait l'électricité avec de 380 volts.
Visiblement, manuellement, ça fonctionne bien.
Oui, ah oui, mais bon, là, c'est pas l'électricité, là, c'est l'huile de coude. Là.
Il en faut pour faire tourner tout ça. Nous sommes véritablement au cœur du temps ici avec vous. C'est émouvant en même temps aussi parce que de quel côté que je me tourne, je vois des objets qui ont vécu, qui ont une âme.
Et qui continuent de vivre parce que l'objectif, c'est ça, c'est de faire perdurer la mémoire, mais aussi la vie de ces objets. C'est pour ça qu'on essaie de créer des scènes vivantes avec quelques mannequins, avec... on essaie de faire l'animation et quand on a de la visite, on fait tourner la menuiserie, certes à l'huile de coude, mais elle tourne. Tout ça, c'est fait avec beaucoup de cœur. Voilà.
Je vois également des jouets d'enfants.
Oui, oui, il y a des jouets d'enfants, effectivement. La plupart là, qui sont exposés cette année sont des jouets en bois, puisque le thème, c'était le travail du bois. On a pensé qu'en marge de l'atelier de menuiserie, on pouvait mettre plein d'objets en bois. Alors, bien sûr, oui, il y a pas mal de jouets, mais il y a aussi d'autres objets en bois de la vie de tous les jours d'il y a 50, 100 ans en arrière.
Quand on voit ces chevaux de bois, quelle année ?
Ben là, il y a le cheval de bois, celui-ci, c'est le mien quand j'étais petit. Et celui qui est à côté avec la petite remorque, c'est celui de Joël quand elle était petite.
Ça fait quelque chose de voir effectivement, quelque part on dévoile aussi un tout petit peu, mais allez, on va dire une forme d'intimité.
Oui, mais c'est pas vraiment dévoilé, c'est partagé. On n'est pas obligé de dire que c'est à nous, là on te le confie, mais on n'est pas obligé de le dire, on le dit rarement d'ailleurs, mais c'est surtout le plaisir de revivre en compagnie de ces objets et de faire partager.
Ces personnes qui viennent, ces visiteuses, ces visiteurs qui sont là, quelles sont leurs réactions? Quelles sont les questions? De quelle façon est-ce que vous entretenez cette relation?
Mais la plupart du temps, les gens sont ravis. On a d'ailleurs un livre d'or sur lequel sont inscrits un bon nombre de félicitations et d'encouragements à continuer. Donc ça, c'est très important parce que ça nous montre que notre travail de bénévole n'est pas vain. Il n'est pas inutile, il apporte du bonheur aux gens. On a un grand-père l'an dernier qui est venu avec ses enfants et petits-enfants et il est resté pratiquement 4 heures dans le musée. Il était absolument transporté. Il expliquait à ses enfants et petits-enfants tel outil, ce qu'il en avait fait, où il avait utilisé, etc. Et donc, c'est valorisant pour nous. Et c'est une des raisons, je pense, qui font qu'on est accroché à ce travail, entre guillemets. C'est du travail, mais c'est du travail plaisir, en fait. À l'occasion de l'exposition sur le pont de la Baume, on a organisé cette année un concours de photos. Il s'agit pour les amateurs, moins de 16 ans ou 16 ans et plus, de faire 2 photos qu'ils apportent au musée qui sont exposées. Et c'est la meilleure photo sera déterminée par le vote des visiteurs. Les visiteurs donc pourront voter pour les enfants et pour les adultes. Il y aura un classement des meilleures photos et nous avons demandé au commerce du coin, les restaurants, au cinéma, à l'acrobranche, etc. On a demandé si vous étiez OK pour nous offrir quelque chose, donc des repas pour un restaurant par exemple. On a un bijou qui nous a été offert par une bijouterie à Sisteron, la bijouterie Arnaud. On récompensera les meilleures photos de cette manière-là. Alors, le tirage au sort sera fait après les journées du patrimoine. Donc, je pense donc le 22 septembre ou peut-être que le 23 parce qu'on n'aura pas forcément que ça à faire ce jour-là. Et puis, ce sera publié dans la presse et à la radio.
L'ambiance, il n'y a pas à dire, elle est fascinante quand on rentre ici à l'écomusée. Pour parler un tout petit peu de la superficie et les différents paliers que vous proposez.
Alors, on a 300 mètres carrés d'exposition. Évidemment, il y a beaucoup de choses puisqu'on n'a pas de lieu de stockage. Mais tout au moins, c'est limité. Et nous essayons chaque année de renouveler et de ranger précieusement. Cette année, par exemple, on a ressorti des documents concernant le bombardement de Sisteron puisque c'est un anniversaire. Et on en a profité pour refaire des panneaux pour informer la population et pouvoir partager. On a aussi beaucoup été aidé par quelqu'un qui, hélas, a disparu, Robert Blanc, qui, 15 jours avant son décès, nous a confié des documents. Bien, il y a les archives et puis chacun de nous, Glane, il y en a même, et on n'a pas honte de le dire, qui font les poubelles.
De quelle façon, par exemple, quand vous orchestrez un rendez-vous, une exposition sur les bombes qui sont tombées à Sisteron, de quelle façon est-ce que vous procédez vos investigations ?
Bon, on a quand même pas mal de connaissances. Bon, vu notre âge, au-delà de 70 ans, on a quand même pas mal de connaissances sur Sisteron. Et donc, quand on commence à parler d'une chose et d'autre, bon, fatalement, on rencontre des gens qui nous aiguillent vers telle ou telle personne qui peuvent nous apporter des documents et des renseignements.
Il y a aussi les archives qui nous aident beaucoup. On est beaucoup aidés par les archives. On est les archives départementales, surtout, oui, les départementales. Et on est aidés par les Sisteronnais. Et les Sisteronnais, il y en a qui ne connaissent pas encore le musée parce que ils passent un peu inaperçus. Mais quand ils le découvrent, ils viennent très volontiers et parler de leurs expériences et nous apporter soit des documents, soit des objets.
Est-ce que l'actualité vous inspire pour les expositions ?
Pas forcément, non. D'ailleurs, on est resté pendant pas mal d'années. On était un petit peu coincé par rapport à l'expo qu'on pouvait faire l'année suivante. Parce qu'on a déjà fait pas mal d'expositions. D'ailleurs, on a deux classeurs qui relatent ces expositions temporaires précédentes. Et c'est vrai qu'à une époque, on avait du mal à trouver l'exposition de l'année suivante. Et puis, depuis quelques années, on trouve bien à l'avance les expos que l'on veut faire. Alors du coup, c'est un soulagement quand même, parce qu'on sait longtemps à l'avance ce sur quoi on doit travailler. Et donc, c'est un petit peu plus facile, mais on va quand même arriver peut-être là, d'ici quelques années, à se dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine ?
L'année dernière, au mois de juillet, nous avons eu la visite de l'équipe du Géoparc. Et nous avons eu droit au label Géoparc, partenaire du Géoparc. Et nous avons été très, très flattés d'avoir cette distinction. Et nous la portons fièrement.
Une reconnaissance nationale.
Une reconnaissance internationale. Il s'agit de l'UNESCO.
La mairie de Sisteron, synergie avec vous, avec l'écomusée, avec les Amis du Terroir ?
Tout à fait. C'est grâce à la mairie si on a ce local. Il est entretenu par la mairie. On ne peut que remercier Monsieur le maire et toute son équipe. On est terriblement aidé aussi par la police municipale et tous les services, services techniques surtout, sont vraiment à notre écoute et à notre service. À cette occasion, on peut aussi les remercier puisque ça passe sur les ondes.
Parmi les expositions, les rendez-vous que vous fixez, il y a les concentrations de véhicules anciens, de véhicules hors du commun.
Oui, alors on a en 2022, on a fait une exposition sur le garage d'autrefois. Et donc on s'est dit, mais il faut faire venir de vieux véhicules. Et donc on a demandé au président André Clément s'il pouvait venir avec son équipe, avec des véhicules anciens devant le musée. Et ça a très très bien marché. Du coup, on a dit, même qu'on fasse une autre expo que le garage, on peut très bien demander aux véhicules anciens de venir. C'est le patrimoine, de toute façon, un patrimoine roulant, mais c'est un patrimoine aussi. Donc, voilà. Alors, cette année, on a fait venir donc, des véhicules, des voitures anciennes. À plusieurs reprises, on a fait venir des véhicules militaires, des véhicules de pompiers. Et là, samedi, nous faisons un rassemblement de motos, de vieilles motos. Et à cette occasion, on aura le triple champion de France, Romain Dania, qui sera présent tout au long de la journée. Alors, il a eu un petit souci, là. Il a eu une fracture de la clavicule. Il viendra, mais bon, est-ce qu'il pourra faire des démonstrations ? Ça, c'est pas certain. Et on aura donc de vieux véhicules, de vieilles motos. On amènera aussi quelques vieilles voitures pour compléter.
Ça, on va en parler, bien sûr. Mais moi, je suis content de vous tenir parce qu'en même temps, vous êtes des personnes exceptionnelles par votre passion et en même temps par votre ténacité. Il y a une volonté derrière tout ça. Est-ce qu'il y a des hauts et des bas ? Est-ce qu'il y a des moments où on se décourage un tout petit peu ? Joël, Bernard ?
Oui, bien sûr, de temps en temps, mais ça ne dure pas parce que derrière, on est tellement soutenus. Pierre, Régine, et Régis, Brigitte, Joseph, ce sont des piliers pour nous. Ce sont des... Voilà, on ne peut pas, si on baisse un instant les bras, il n'y en a pas pour longtemps que tout le monde les relève. Et quand on prépare nos expositions, vous nous demandiez donc par rapport aux préparations, on fait une réunion, ils sont là, moi je fais ça, moi je fais ça. On a par exemple Régine qui s'occupe spécialement de l'accueil, de ce qu'il faut se procurer pour faire un apéritif, un café le matin quand on a les journées. Et de nouveau, les agents de ville, que ce soit la police, que ce soit les techniques, et tout ça, ça peut qu'aider.
Bernard, l'amitié, c'est aussi un pilier ?
Ah oui, absolument. La convivialité et l'amitié au sein d'une équipe. Si on veut qu'une équipe fonctionne bien, il n'y a pas d'autre solution. Il faut de la convivialité, de l'amitié, du respect, bien sûr. Et bon, ça, je l'ai vécu à travers le cadre ici Sisteronnais, dont j'ai été président pendant 17 ans et membre pendant près de 40 ans. Donc, au musée, on essaie de faire la même chose. Une association dans laquelle il n'y a pas de convivialité et d'amitié, elle ne peut pas perdurer, ce n'est pas possible.
Joël et Bernard, depuis tout à l'heure, j'ai en face de moi un mannequin qui me rappelle la machine à voyager dans le temps. Vous savez, quand on traverse les époques. De quelle époque les habits que porte cette personne?
Oui, ça doit être dans les années 40.
Après, vraiment d'origine.
Ah oui. Alors, ce ne sont pas les copies, ça, non.
Joël, vous pouvez nous la décrire?
Elle est vêtue d'une jupe plissée, style plissolet qu'il y avait entre les années 50 et 60. Elle a un chemisier avec de la dentelle, un collier comme il se portait dans les années 50-60 aussi. Par contre, il y a une petite dissonance, elle a un manche rond qui est une protection pour se tenir les mains au chaud, qui se portait surtout dans les familles aisées, mais plutôt avant la guerre de 45.
Prochain rendez-vous, vous le disiez Bernard, un rendez-vous à noter dans les agendas, ce sera le samedi 24 août avec Romain Dagna, triple champion de France d'enduro, vice-champion d'Europe également d'enduro.
Et second actuellement au championnat du monde.
Comment on va s'orchestrer la journée de ce samedi 24 août?
Alors samedi matin, comme chaque fois qu'on fait des animations, déjà les techniques nous auront installé un barnum, on sera donc à l'abri de la pluie et du soleil. À 9h, nous accueillons les premiers exposants avec le café, un petit quelque chose, un petit goûter. Et puis après l'exposition, la population peut venir, ils auront droit aussi au café. Ensuite, il y aura un défilé en ville vers 11h, 11h15, avec les véhicules roulants, parce qu'il y en a qui ne pourront pas se déplacer, mais ils resteront toute la journée visibles sur le parking. Ensuite, à midi, nous cassons la croûte. Et s'il y a des gens qui veulent rester sur place, il y aura un pizzaiolo qui fournit, qui alimente, en payant bien sûr. Mais les gens pourront pique-niquer sous le barnum ou dans les alentours. L'après-midi, on sera ouvert tout le jour, évidemment, aux visiteurs. Il va y avoir les démonstrations de Romain, en espérant qu'il puisse les faire. Mais moi, j'y crois parce que c'est un gamin qui a tellement de volonté. 19 ans, mais il retourne les montagnes.
Et il est de Vaumeil.
Il est de Vaumeil, tout à fait. Il habite le plan de Vaumeil. Et en plus, c'est quelqu'un qui est tout à fait dans notre jus, c'est-à-dire quelqu'un qui est modeste. Un gamin plein de qualités, mais modeste et adorable, très, très, très affectueux. Donc l'après-midi, tout sera visible et Romain fera des démonstrations. Et nous resterons ouverts tant qu'il y a du monde. Des fois, c'est 20h, des fois, c'est 21h. Voilà.
Oui, cette animation est entièrement gratuite. Après, si les gens, comme disait Joël, veulent manger sur place, il y aura un pizzaiolo, donc ils pourront manger la pizza, salée, sucrée. Voilà, on offrira l'apéritif aussi. L'entrée est gratuite. Après, il y a des gens qui font des dons parce que ils savent que nous sommes une association de bénévoles. On a la subvention de la mairie, mais si on n'avait que la subvention de la mairie, ça serait difficile pour organiser toutes ces animations. Donc, bien sûr, les dons sont les bienvenus. Il y a une boîte aux lettres, une très ancienne boîte aux lettres qui sert de tirelire pour l'association.
Samedi 24 août, du spectacle, toute une ambiance à l'écomusée. Est-ce qu'on peut se renseigner sur l'événement, vous appeler, vous contacter?
Alors, bien sûr, nous sommes à la disposition de tous ceux qui veulent savoir. Il y aura donc sur le site déjà des explications sur Google Maps. L'office de tourisme, ils ont la gentillesse de nous aider pour pouvoir alimenter ce site qu'on vient juste de créer. Et on peut toujours appeler au 06 15 213 213.
Joël Blanchard, Bernard Blanc, quelles sont les images que vous avez par rapport au moment où vous avez créé l'association, quand vous avez démarré? Est-ce que vous aviez envisagé un tel impact, une telle animation autour de tout ce que vous alliez proposer?
Non, pas du tout, parce que quand elle a été créée, en fait, nous connaissions Sylvie Pouzadou, nous avons donné des choses anciennes et nous avons participé, mais de loin, c'est elle qui portait le bébé en quelque sorte. Ensuite, Claude Brémond et Liliane ont continué de porter, nous étions membres, nous alimentions chaque fois qu'on pouvait apporter des choses, on faisait de la surveillance, mais jamais on n'avait pensé prendre une telle ampleur. C'est que ça a commencé, il y avait des expositions, Mais c'était timide. Et après, quand on a compris que ça fonctionnait, voilà, depuis 2020, on se tient à changer d'exposition chaque année.
Oui, c'est vrai que les archives départementales nous aident, puisque chaque année, depuis maintenant 7-8 ans, peut-être plus, une de nos deux expositions temporaires est complétée par des documents d'archives, soit des photos, soit des textes. Et cette année, sur le pont de la Baume, ils ont fait une exposition absolument fantastique. D'ailleurs, cette exposition sera visible aux archives départementales à Digne à partir du 16 septembre et jusqu'à la fin de l'année, je crois. Les Dinois qui ne sont pas venus ici pourront aller la voir sur Digne. Oui, moi, je suis un peu surpris, effectivement, de l'ampleur que ça a pris, puisque cette année, le nombre de visiteurs, qui était auparavant de l'ordre de 1000 pour les 3 mois pendant lesquels le musée était ouvert, le nombre est passé à plus de 2000. L'an dernier, on a fait 2700 entrées. Ce qui était énorme par rapport à ce qui se passait avant. Mais je pense que ceci est dû justement aux animations que l'on fait. Cette année, on en aura fait, je crois, une fois que la saison est terminée, 8, quelque chose comme ça, 8 ou 9.
En ce qui concerne le planning, on le voit effectivement très très chargé sur votre agenda. Si on se projette, qu'est-ce qu'on va trouver comme date ?
Alors, bien, la venue de Romain Dania. Ensuite, il y aura les journées du patrimoine avec un cordier, fabricant de cordes comme au Moyen-Âge. Et puis, à l'occasion de la Foire Expo, nous referons une exposition de véhicules anciens avec le club de Serres.
Et nous accueillerons le club de Manosque qui passe pour la Foire Expo, justement.
Donc, pour les journées du patrimoine, il y aura donc le cordier. Et pour la Foire Exposition, donc nous serons ouverts samedi, dimanche en continu. Et nous recevrons les voitures de collection de l'association de Manosque avec des véhicules de luxe. Pour la Foire Expo, ce sera donc 5-6 octobre. Et pour les Journées du Patrimoine, ce seront le 21 et 22 septembre. Et le musée sera ouvert toute la journée du samedi et du dimanche. Et nous accueillerons Auto Rétro des Alpes Provençales. C'est l'association de Mison avec leur véhicule de collection.
Est-ce qu'il y a des projets comme ça qui sont pertinents, qui arrivent ?
Ah, tout à fait. Il y a déjà plusieurs mois qu'il y a le projet pour l'année prochaine. Nous participerons aux 100 ans du quadri cisteronné. Il y aura donc une exposition sur la naissance et la vie du quadri cisteronné. Et à cette occasion, ben, on va équiper le musée de mannequins, de quadrilleurs, de documents, de photos qui datent depuis la création du quadri qui avait eu lieu en 1925. Et la première manifestation, justement, s'était passée à la citadelle de Sisteron. Parallèlement, il y aura une exposition sur les femmes qui ont fait ce que nous sommes. C'est un peu féministe, mais je pense que ça vaut le coup. Parce que Madame Massot-Devez, qui est la créatrice du quadri cisteronné, était quelqu'un d'avant-garde dans l'émancipation et la libération des mœurs, et des femmes en particulier, la possibilité et ce qui nous a abouti au vote. Et donc, il y aura une exposition autour de toutes ces dames qui ont fait grandir la gente féminine, Alexandra Davinel, Marie Curie, Simone Veil. Tous ces gens-là, on est en train de rassembler des documents. On a déjà pris des contacts, en particulier pour Marie Curie. On est en relation avec un ingénieur à la retraite, certes, qui est sur Sisteron et qui a travaillé à l'Institut Curie à Paris.
Et avant de nous séparer, Joël et Bernard, on va peut-être rappeler le rendez-vous pour ce week-end.
Oui, un rendez-vous important pour nous et on espère pour les cisteronnés qui viendront. Samedi, dès 9h, nous serons là, le musée sera ouvert et nous accueillerons les premières vieilles motos. Il y en a qui sont très vieilles et qui datent des années 1930 et qui fonctionnent, que les gens pourront voir évoluer sur le parking. On va rester sur le parking pour certaines parce que certaines n'ont pas la possibilité de faire de gros trajets, mais elles tournent, elles avancent et donc les propriétaires seront ravis de le montrer aux visiteurs.
Joël Blanchard, le mot de la fin ?
Eh bien, rendez-vous au 24 parce que toute cette démonstration sera orchestrée aussi par Romain Dania et son équipe, puisqu'ils ne viennent pas tout seuls, avec une démonstration d'enduro et plein d'explications sur les mécaniques. C'est aussi un fan des vieilles motos, donc voilà, là on a une source inépuisable de renseignements. Donc rendez-vous au 24 août pour cette journée ensemble et à très bientôt.